Vous écoutez, on lit pour vous.
La fibromyalgie, cette grande mécomprise. Une chronique de Julie Hildebrande, parue le 16 mai 2024 dans le Franco, en Alberta. Il n'y a pas si longtemps, la fibromyalgie n'existait même pas. Non seulement elle n'était pas reconnue comme maladie, mais en plus on croyait qu'elle prenait forme dans l'imaginaire des malades. Les médecins, pourtant de bonne foi, disaient à leurs patients que tout allait bien, qu'ils étaient en pleine santé et que leurs symptômes étaient dans leur tête. À vrai dire, ce syndrome ne portait même pas de nom. Il faut reconnaître que la variabilité de ces manifestations a contribué à ce vide de diagnostic. De surcroît, les patients qui en souffrent ne présentent pas toujours les mêmes symptômes ni ne les vivent avec la même intensité. Difficile de diagnostiquer une maladie qui demeure si vague et si difficile à décrire. D'autant plus qu'il n'existe aucun test diagnostique qui puisse la confirmer avec certitude. Toutefois, cet état de fait s'est modifié catégoriquement depuis la reconnaissance de la fibromyalgie par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 1992. En effet, on lui attribua alors une identité diagnostique propre en lui associant un code de la classification CIM-10. Elle ne pouvait plus désormais être confondue avec un trouble psychiatrique. On admettait finalement que la douleur généralisée qu'elle engendre était bien réelle. C'est la maladie du mal partout et du mal tout le temps. Lorsque j'étais étudiante en médecine, on utilisait depuis peu le test des 18 points douloureux à la pression comme critère pour établir le diagnostic. Ces points, répartis sur l'ensemble du corps, sont généralement sensibles au toucher pour tous les sujets sains, mais le seraient davantage pour les sujets atteints de fibromyalgie. Aujourd'hui, ce test diagnostique ne tient plus. Il suffit que le patient rapporte des douleurs généralisées en haut et en bas de la ceinture, à gauche et à droite du corps, puis au niveau axial, et que celle-ci dure depuis au moins 3 mois. Le mal s'accompagne le plus souvent de fatigue et de troubles de la cognition. Les symptômes peuvent fluctuer dans le temps, mais ne disparaissent jamais complètement. Il en reviendra au médecin traitant de s'assurer d'avoir éliminé toutes les autres causes pouvant expliquer ces symptômes avant de conclure au diagnostic de fibromyalgie. Des causes difficiles à cerner. La fibromyalgie peut s'en prendre à tous les individus de la société, adultes et enfants. Elle atteindrait 2% de la population canadienne, mais toucherait plus particulièrement les femmes, dans 80 à 90% des cas, âgés entre 20 à 50 ans. La recherche démontre que la probabilité de développer cette maladie est plus élevée si un membre de la famille en souffre. Jusqu'à 28% des enfants nés de mères souffrant de fibromyalgie en hériteront. Il n'est pas rare qu'un traumatisme physique ou émotionnel soit à l'origine de cette affection, comme le décès d'un être cher, une maladie grave, une infection, une chirurgie ou un accident de la route. Il est aussi reconnu que la maladie puisse s'établir progressivement sans déclencheur traumatique remarquable. Les personnes touchées par la fibromyalgie présentent aussi fréquemment et simultanément différentes maladies auto-immunes, dont l'arthrite rhumatoïde, le lupus, la spondylite ankylosante et l'arthrose. Néanmoins, il est utile de rappeler que la fibromyalgie n'appartient pas à la catégorie des maladies inflammatoires, car il n'y a ni inflammation ni signe de destruction permanente au niveau des articulations, des os et des tissus mous. Bien qu'inquiétante, elle n'est ni dangereuse ni mortelle. Toutefois, la fibromyalgie s'accompagne souvent d'autres entités pathologiques comme le syndrome du côlon irritable, la cystite interstitielle, le syndrome de fatigue chronique, la tachycardie posturale, le syndrome des jambes sans repos, la dépression, l'anxiété, la céphalée de tension et un trouble de l'articulation temporomandibulaire. Sans compter que la constellation de symptômes qui accompagne la fibromyalgie s'avère plutôt invalidante. Douleur généralisée, douleur à la pression, courbature, sensation de picotement, insomnie ou sommeil non réparateur, asthénie, intolérance à l'effort, vertige, trouble de la mémoire et de la concentration, fibrobrouillard, irritabilité, céphalée, migraine, sensibilité aux changements de température, au bruit, à la lumière et aux odeurs, fréquence accrue de réactions allergiques. Certains de ces symptômes peuvent être absents ou moins encombrants. Ils évoluent par poussée et rémission. Jusqu'à ce jour, la cause précise de la maladie n'a pas été identifiée. Cependant, la communauté médicale accepte qu'il existe une hypersensibilisation des voies nerveuses au niveau du cerveau et de la moelle épinière, c'est-à-dire que les patients ressentent les sensations douloureuses et même non douloureuses beaucoup plus intensément qu'une personne normale. Il existerait une anomalie de la régulation centrale de la douleur, ce qui favoriserait une diminution du seuil de perception. Ensuite, le cerveau développe un souvenir de la douleur qu'il diffuse en boucle. Le stress est probablement le facteur le plus nuisible à la maladie. En second lieu, vient sa non-reconnaissance par le médecin traitant et par l'entourage. Il est extrêmement délétère pour le patient que sa douleur ne soit pas admise. Ainsi, plus le patient sera informé sur sa maladie, et mieux il s'en portera. Adoucir sa vie avec la fibromyalgie. Avec une certaine dose de résilience, les patients développent avec le temps des méthodes pour atténuer leurs symptômes. Il n'existe aucun traitement curatif, et lorsque des médicaments sont prescrits, cela demeure à titre d'essai thérapeutique, puisqu'ils se révèlent peu efficaces et peuvent comporter des effets secondaires indésirables. Ce qui est plus bénéfique pour le patient, c'est qu'il prenne part activement à son rétablissement en modifiant ses habitudes de vie. De nombreux médicaments pourraient être prescrits par votre médecin en fonction de la prédominance de douleur, mais un programme d'exercice régulier et modéré est de loin le meilleur allié de toute personne souffrant de fibromyalgie. Les étirements, les exercices de renforcement musculaire, les exercices d'endurance, le tai chi et le yoga sont à préconiser. Les exercices à impact élevé, tels que la course, la boxe, le jogging et la danse aérobique, sont à éviter, car ils risquent d'induire davantage de malaise. Il peut être sage de consulter un physiothérapeute qui pourra concocter un programme sur mesure pour ne pas vous infliger de blessures. Par ailleurs, ils peuvent offrir différentes options telles que l'hydrothérapie, la massothérapie et l'acupuncture. Maintenir une bonne hygiène de sommeil est essentiel pour que le corps et l'esprit récupèrent. Si vous souffrez de cette maladie, assurez-vous de dormir dans un lieu confortable, sombre, sans bruit, pas trop chaud et comportant une literie confortable. Il est préférable d'éviter d'utiliser les écrans, ordinateur, tablette, téléphone, quelques heures avant de dormir. Le manque de sommeil pourrait exacerber les symptômes de la fibromyalgie. La réduction du stress est aussi primordiale. Prenez le temps de méditer chaque soir. Dans un même ordre d'idées, allouez-vous de petits moments de relaxation durant la journée, exercice de respiration profonde. Ne bousculez pas votre routine. Respectez votre propre rythme. N'en faites pas trop ou pas assez. Établissez votre juste milieu. Ne laissez pas votre entourage bousculer vos limites. Consultez un psychothérapeute pour vous aider à y voir clair. Ce faisant, continuez à adopter de saines habitudes de vie, une diète équilibrée, une vie sans fumée et sans alcool. Armé de ces bons conseils, vous aurez du succès. C'était la fibromyalgie, cette grande mécomprise. Une chronique de Julie Hildebrand, parue le 16 mai 2024 dans Le Franco, en Alberta.
Allonger la vie des fioles en pharmacie. Un texte de Valérie Simard, paru le 24 mai 2024 dans La Presse. Alors qu'il est possible de remplir ses contenants de savon à lessive et ses pots d'épices dans de nombreux commerces offrant l'achat en vrac, une majorité de pharmacies refusent à leurs clients la réutilisation de leurs fioles de médicaments. Pourquoi? C'est la question que se pose Louise Lavallée, lectrice de La Presse. J'ai déjà demandé à ma pharmacie de réutiliser mes flacons de pilules, mais on m'a dit que ce ne serait pas possible. Que de plastique gaspillé! La pharmacie de Mme Lavallée n'est pas un cas d'exception. Selon un coup de sonde non scientifique réalisé par La Presse et dont les résultats sont confirmés par plusieurs intervenants du milieu, une grande majorité de pharmacies n'acceptent pas de réutiliser les fioles de médicaments. La pratique, qui avait gagné de nombreux adeptes avant la pandémie, a été freinée par les règles d'hygiène strictes qui ont dû être mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19. Depuis, beaucoup de pharmacies qui acceptaient de reprendre les fioles de manière informelle ont abandonné l'idée. Mais les enjeux vont bien au-delà de simples questions d'hygiène. Des raisons de sécurité, les fioles à l'épreuve des enfants sont homologuées pour un certain nombre d'ouvertures et de fermetures, et de logistique, plusieurs pharmacies demandent à leurs clients de les contacter à l'avance pour faire préparer leurs médicaments, sont notamment évoquées, de même que la présence de robots dans les laboratoires. Logistique complexe. Dans ces standards de pratique, l'Ordre des pharmaciens du Québec indique qu'un pharmacien doit s'assurer de la qualité et de la sécurité des soins prodigués à ses patients. Il recommande également que l'étiquette soit posée sur le flacon plutôt qu'à l'intérieur afin d'assurer une identification permanente de son contenu tout en étant plus hygiénique. Or, cela peut compliquer la logistique lors de la réutilisation des fioles. Selon ce standard de pratique, il se peut que certaines pharmacies soient incapables de garantir la propreté des flacons et ne puissent pas offrir ce service, explique Marie-Lie Beaulieu-Gravel, porte-parole de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Si certaines sont en mesure de le faire, c'est qu'elles se sont dotées de politiques et de procédures leur permettant de garantir la sécurité du service. C'est notamment le cas des deux pharmacies de Jean-Maurice Webel, situées à Montréal et affiliées à Family Prix. Après avoir suivi le programme d'accompagnement élaboré par Maillon Vert pour aider les pharmacies à réduire leur empreinte carbone, Jean-Maurice Webel a introduit plusieurs pratiques éco-responsables dans ses deux succursales montréalaises, notamment la réduction de la consommation énergétique, l'introduction du vrac pour les produits ménagers et la réutilisation de fioles. Pour respecter les critères de sécurité, le décompte du nombre de remplissages était indiqué sous le pot par un technicien jusqu'à ce que l'établissement choisisse des flacons étant homologués pour un nombre grandement supérieur d'utilisations. Lors de la mise en place de cette mesure en 2018, Jean-Maurice Webel estimait à 55 000 le nombre de flacons écoulés annuellement dans ses pharmacies. On avait mis beaucoup d'accent là-dessus, se souvient-il, et nos clients ont participé en grand nombre. Chaque jour, des gens nous apportaient leurs fioles vides, puis pendant la pandémie, on a dû arrêter de les reprendre. C'est dommage. Il y a environ un an, à la demande de patients, il a réintroduit la mesure, mais de nouveaux venus avaient changé la donne. Comme plusieurs pharmaciens, M. Webel s'est doté de robots pour accélérer la préparation des médicaments. Dans une des succursales, c'est pas mal plus ardu maintenant de pouvoir récupérer les fioles à cause du robot qui les étiquette, expose-t-il. Il demande donc aux clients qui souhaitent que leurs flacons soient réutilisés de repasser les chercher le lendemain. Précisons que les pharmacies ne peuvent reprendre les fioles que pour un même client et seulement pour les médicaments qui ne sont pas considérés comme étant cytotoxiques, médicaments souvent utilisés pour détruire les cellules cancéreuses, ce qui représenterait un risque pour le personnel. Bref, pour mettre en place un tel protocole, il y a réellement des efforts supplémentaires à intégrer, observe le pharmacien Marc-André Maillot, fondateur de Maillon Vert, qui a accompagné plus de 120 pharmacies dans l'adoption de pratiques éco-responsables. Ce n'est pas aussi simple que de réutiliser un sac à l'épicerie. Notre message aux patients, c'est « Faites-en la demande », dit-il, « sensibilisez les pharmaciens ». Bien que plusieurs millions de fioles de médicaments, pour la plupart recyclables, soient utilisées chaque année au Québec, Marc-André Maillot relativise la quantité de plastique qu'elle représente par rapport à d'autres produits. En réduire l'utilisation fait néanmoins partie de la vingtaine d'actions proposées par Maillon Vert aux pharmacies qui souhaitent prendre le chemin de l'éco-responsabilité. Les fioles vertes. Après avoir été lui aussi freiné par la pandémie, le mouvement Fioles vertes, lancé en 2019 par la pharmacienne Sarah Fizazi, poursuit son déploiement. À ce jour, une trentaine de pharmacies au Québec proposent à leur clientèle de se procurer des fioles en verre qui peuvent être réutilisées après avoir été rigoureusement nettoyées. Autre nouvelle écolo. Le chiffre de la semaine, 23 000 kg. C'est le poids des piles et batteries récupérées dans 195 écoles québécoises du 16 août 2023 au 12 avril 2024, soit l'équivalent de deux autobus scolaires. Cette collecte a eu lieu dans le cadre d'un concours organisé par Environnement Jeunesse et Appel à recycler. Rappelons que les piles ne peuvent être mises à la poubelle ou au recyclage. Elles doivent être déposées dans un point de collecte. Feu vert, la palme d'or du tournage écolo. Lors du Festival de Cannes, l'organisme EcoProd a récompensé les films produits de la manière la plus éco-responsable possible. Le prix EcoProd a été remis ex aequo au roman de Jim, réalisé par Arnaud et Jean-Marie Larieux, et à Maria de Jessica Palude. Nikki de Céline Salette a reçu le prix spécial du jury. Selon EcoProd, l'empreinte carbone moyenne d'un long métrage est de 188,7 tonnes CO2, soit l'équivalent d'une centaine d'allers-retours en avion entre Paris et New York. C'était « Allonger la vie des fioles en pharmacie », un texte de Valérie Simard, paru le 24 mai 2024 dans la presse.
Le silence ou la conscience rêveuse du monde. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 5 juillet 2024 dans Le Devoir. Le silence est devenu monnaie rare. Le bruit partout nous mène. Au gré de ces chemins récents, notre collaboratrice Monique Durand nous entraîne dans les bruissements du silence. Un baume pour nos corps et nos esprits en ces temps tapageurs, un bien commun à chérir et à protéger. J'ai marché, couru, volé, navigué, sur terre, sur mer et dans les airs, quadrillé quelques bouts du monde à sa recherche, les parfois effleurés, touchés, tenu dans mes mains comme un fruit rare et chatoyant. Lui, le silence, que l'on n'entend quand rien ne se fait entendre. Le silence, c'est ce ciel de Tadoussac sous lequel j'écris ces mots, en route vers l'Est et mon pays lointain. On s'endormirait dans ces vapeurs cuivrées, un ciel de début et de fin du monde, doucement effrayant. Mes préférés, le silence ne se voit pas, il s'étend tout au loin, et cependant il est près de vous, si près que vous le sentez comme votre propre corps. Proche et lointain, il se déploie comme un paysage. Les scientifiques distinguent généralement trois catégories de paysages sonores. La biophonie, qui regroupe les sons d'origine animale ou végétale, oiseaux, grenouilles, cigales. La géophonie, qui regroupe les sons des quatre éléments d'Empédocle, où la terre, l'eau, le feu et l'air, chute de pierres, de branches, mélodie des cours d'eau, tremblement du vent dans les arbres. Empédocle, philosophe et médecin grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a tenté de découvrir le schéma du cosmos. Enfin, l'anthropophonie, qui couvre tous les sons d'origine humaine. L'anthropophonie moderne est, aujourd'hui, en train de donner le coup de grâce au silence naturel, écrit Jérôme Sueur, chercheur en écho-acoustique au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Le bruit humain s'impose et fait disparaître des millions d'années d'évolution et de diversification sonore. Nos oreilles sont assiégées en permanence. Tout doit être rempli de quelque chose, et ce quelque chose est généralement plus ou moins sonore. Nos véhicules, nos tondeuses, nos musiques, souvent offertes généreusement à tout le voisinage à l'heure des oiseaux du soir, de l'apéro et des conversations bénies. Les avions, les trains, tous nos engins pétaradants. L'indécollable musaque dans les centres commerciaux, les restaurants, sur les chantiers et même parfois dans les cours d'école, jusque dans les lieux les plus enchanteurs et délicieux. Scène récente sur le traversier Saha-Re-Maha-1. Nous franchissons le Saint-Laurent de Matane vers Baie-Comeau. Le ciel s'en trouve après des jours de pluie. Le soleil vient d'apparaître, faisant étinceler le fleuve qui, ici, ressemble à la mer. L'échancrure de la côte vers l'est s'offre comme des pattes d'ours plongeant dans les flots. Cette baie de Baie-Comeau est, à mes yeux, l'une des beautés du monde. À bord, des micros crachent une musique qui tourne en boucle, lancinante comme un mal de dents, agaçante comme une nuée de mouches noires. Un matelot sourit quand je lui demande s'il endure ça toute la journée. « On a des plaintes, » fait-il, « mais certains passagers aiment ça. » Le bruit harasse le corps, écrit Jérôme Sueur, causant baisse de concentration, diminution de la vigilance, réduction de l'apprentissage et perturbation du sommeil. En plus de générer du stress pouvant s'exprimer par des troubles de comportement, des problèmes cardiovasculaires, des dérèglements endocriniens, il est essentiel, poursuit l'expert, de considérer le bruit comme un problème de santé publique. Un problème à traiter telle une pollution. Le silence des uns n'est pas le silence des autres. Je poursuis ma route vers l'est. Un gros ours traverse la voie, heureusement à bonne distance de mon pare-brise. Courte escale au majestueux phare de Pointe-des-Monts, entre Godbout et Baie-Trinité. Un brouillard dense s'est levé au-dessus de la mer, amplifiant le silence, on dirait. J'entends une corne de brume au loin. Les cornes de brume ont sur moi le même effet que le cri des oies blanches dans la demi-saison. Chaque fois le cœur me manque, envolé vers des contrées indéchiffrables. Le silence n'est pas simple absence de bruit, avance Alain Corbin, spécialiste de l'histoire des sensibilités, mais condition du recueillement, de la rêverie. Il est le lieu intime d'où la parole émerge. C'est un petit oiseau jaune entrevu un matin sur la toile verte de la forêt de Wapishka dans les monts Groux, une épinette penchée sur le flanc du fleuve Churchill au Labrador, comme l'enlaçant. De grands pins centenaires, un après-midi de balcon à Magog, cathédrale d'aiguilles toute frémissante. Le silence nous dépouille, il nous simplifie, écrit Sylvie Germain, il nous éclaire furtivement de l'intérieur. Nouvelle escale à Baie-Trinité, cette fois. Les crabiers sont revenus chargés de leurs joyaux gustatifs et piaffent d'impatience de repartir. Mais en cette seconde, nul bruit à la ronde. Deux canards noirs barbotent au bout du quai. Il existe tant d'autres silences que ceux de la nature. Celui d'une lampe de chevet éclairant un livre. Le silence des tableaux de Jean-Paul Lemieux, des films de Léa Poule, ou bien l'écriture tout en ellipse de Gabriel Leroy, la voix de Johnny Mitchell, un blues de Miles Davis. La véritable musique, disait ce dernier, est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence. Les mains en suspens et les yeux tournés vers le ciel du pianiste Émile Gillaise, après son arabesque de Schumann, une prière dans la salle moscovite plus personne ne respire, ou la fin d'une pièce d'orgue, un jour, avec ma mère à Notre-Dame de Paris. Les secondes qui suivirent nous ont laissé pantelantes, souffle coupé, dans une sorte d'épaississement du silence. Le silence des uns n'est pas le silence des autres, prétend l'écho-acousticien Jérôme Sueur. Notre positionnement auditif dépend de notre physiologie, de notre psychologie et de notre vécu. Bref, à chacun et chacune son silence. Au vu du spécialiste, l'état de silence ne se rencontrerait que si nous sommes en paix avec nous-mêmes. Peut-être. Le silence serait-il l'aptitude d'une âme tranquille? Peut-être. Une matière touffue, inépuisable. Attention, le silence n'est pas que sublime ou apaisant. Il peut être lourd, méprisant, destructeur, ou le symptôme d'un malaise, d'une tyrannie, d'un traumatisme. Le silence de tant de femmes agressées, d'enfants violentés, celui assourdissant des fronts militaires entre deux obus, le silence de qui s'est fait taire, celui de Dieu. Où était-il à Auschwitz? S'est demandé toute sa vie l'écrivain et rescapé de l'Holocauste Elie Wiesel. Le silence des grands cimetières sous la lune, ouvrage de Bernanos, paru en 1938, où il dénonce l'oppression sous le dictateur espagnol Franco. Combien d'autres grands cimetières ou de fosses communes sous la lune ailleurs dans le monde? Et cette stance si belle de Victor Hugo? Crois-tu que le tombeau d'herbe et de nuit vêtue ne soit rien qu'un silence? La matière du silence est touffue, inépuisable. Je prends le parti cet été du silence comme conscience rêveuse du monde, si belle expression empruntée au philosophe Gaston Bachelard. Cette série nous entraînera dans divers états et lieux du silence, porteurs de songes et de sens. Je n'ai jamais oublié ces paroles de Julius, un résident des îles Féroé, caillou perdu entre l'Islande et l'Écosse. Le silence, c'est quand je suis assis sur la lande et que, pour tout bruit, j'entends battre mon cœur. Dernière courte escale sur le ponceau Gabriel-Roy qui ouvre sur l'immense baie de cette île. Il s'est mis à pleuvoir. La mer de la tranquillité est là, juste devant. De longs cargos rouges mouillent au loin, surgissant entre les vapeurs marines comme des apparitions. Il pleut sur mes yeux, il pleut du silence. C'était « Le silence ou la conscience rêveuse du monde », un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 5 juillet 2024 dans Le Devoir.